Donc le message aujourd'hui, c'est comment porter du fruit. J'étais interpellé, il y a de ça quelques semaines. Ah, dans le micro, oui. Ah oui, excuse-moi, mon tête. D'accord, pardon, excuse-moi. Il y a de ça quelques semaines, j'étais interpellé par ce passage parce que je me demandais, mais Seigneur, je priais pour savoir mais quel message apporter selon les besoins de l'Église, selon nos besoins. Et le Seigneur a attiré mon attention sur le chapitre 15 de Jean, sur le cep, les sarments. Bien sûr, tout le monde a déjà entendu. Normalement, on connaît très bien. Et donc, j'en suis venu à ça. Et j'ai pris cette image pour... des fois, imager, c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Et pendant la prière, le Seigneur m'a mis... j'avais cette image, mais bien sûr par un livre. Mais en priant, il m'a mis en dessous quatre paniers que j'ai reçus dans la prière. Et donc, j'ai creusé. Alors, en fin de compte, tu peux descendre, s'il te plaît. Oui, voilà. Voilà. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je vais lire quand même le passage, les 12 premiers versets. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous aimé aussi, demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, que j'ai gardé les commandements de mon Père, demeure dans son amour. Je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous, et votre joie soit parfaite. Si mon commandement, et vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen.
Alors, si tu peux mettre l'image avec le cep et les quatre paniers. Voilà. Pour garder cette image. Voilà.
Alors, donc les quatre paniers représentent l'Église. Dans les 12 premiers versets, il y a un mot qui revient souvent et qui revient 12 fois. C'est le mot « demeurer ». Donc le Seigneur insiste très bien dans le mot « demeurer » parce que c'est là l'essentiel. On l'a déjà dit tout à l'heure. Demeurer dans la présence du Seigneur. Consacrer du temps dans la présence du Seigneur, dans la prière et l'étude de sa parole. Alors j'ai regardé le mot « demeurer », qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, l'explication dans les dictionnaires, c'est pas toujours, pas toujours super, mais bon, la première phrase, être quelque part à demeure. Bon, c'est pas terrible, hein. Mais ce qui m'a interpellé énormément, y être installé de façon stable et définitive. Définitive, on peut penser à la vie éternelle, le salut, mais est-ce qu'on est stable dans cette relation avec Jésus? Est-ce qu'on y demeure stable?
Et c'est ce que le Seigneur veut, qu'on soit stable dans notre relation avec Jésus, dans notre communion. On demeure dans la maison. La maison, c'est Jésus-Christ. On a parlé du temple, on a parlé de beaucoup de choses, mais dans la louange, la présence de Dieu, c'est le plus important, c'est le socle, c'est tout ce qui tient l'édifice. Alors, le premier panier, il dit dans le verset 2, donc le premier panier, c'est celui-là. Le premier panier est vide. Pourquoi il est vide ? Bon, on va le voir. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors, retrancher, bon, on veut dire mettre à part. C'est pas non plus détaché. Et c'est le sarment, en fin de compte, c'est celui-là, le sarment, qui traîne à terre. Mais il est toujours attaché au cep. Et j'ai regardé dans la version grecque, en fin de compte, le mot « retranché ». Parce que la Bible a été traduite en hébreu, en araméen et en grec. Et dans la version grecque, pour le mot « retranché », ils disent « héro », A-I-R-O, qui signifie « soulever ». Alors je me suis dit, mais pourquoi « soulever » ? En fin de compte, quand on regarde bien, le métier d'un vigneron, le but du vigneron, c'est de faire en sorte que la vigne porte beaucoup de fruits, de prendre soin. Et en fait, ce qu'ils font les vignerons, quand ils voient un sarment qui tombe à terre, donc il est à terre, et pourquoi il ne porte pas de fruits ? Parce qu'il est plein de poussière et de boue, comme il traîne à terre. Et ce qu'ils font les vignerons, ils soulèvent le sarment. Il le soulève et il le lave. Il le lave pour enlever toute la poussière et toute la boue. Et il le remet avec les autres. Alors le mot retranché, le Seigneur fait comprendre que c'est sa discipline. Sa discipline dans nos vies. On ne demeure pas toujours dans le Seigneur. Et apparemment, il y a des cèpes qui traînent à terre, qui ont du mal à avoir une vie épanouie en Christ. Donc, bien sûr, il y a des blocages. Et le Seigneur doit discipliner, donc il doit laver le sarment. Il va d'abord le laver avant de le remettre. Et ce qui bloque la communion, c'est le péché. Qui nous empêche de demeurer avec Jésus. C'est pour ça que je parlais de stabilité. Il faut être stable dans notre relation. Dans le panier 2, dans le deuxième panier, donc c'est celui-là, il dit « Et tout sarment qui porte du fruit. » Donc celui-là, il porte du fruit. Mais quand on regarde dans le fond du panier, c'est simplement 2-3 grappes. Il porte du fruit, c'est tout. Et le Seigneur, pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits, encore plus, c'est dans le troisième panier, il émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors émonder, c'est pas compliqué, c'est couper les branches inutiles. Et donc le Seigneur, dans nos vies, il m'a fait comprendre que dans nos vies, il va enlever tout ce qui prend la place avant Jésus. Il ne faut pas confondre la discipline et émonder. Émonder, c'est plutôt des choses qui remplissent la vie des chrétiens et qui empêchent le chrétien de consacrer du temps au Seigneur. Alors il va enlever ce qui est inutile. Quel exemple ? Je vais prendre un exemple pour moi personnellement, parce que c'est là qu'il faut avoir beaucoup de discernement. Des fois, on ne se sent pas bien, pourquoi ? Des fois, on se sent oppressé, des fois, il y a des choses qui, des fois, ne sont pas toujours claires dans nos vies. On se dit, mais tiens, pourquoi je suis oppressé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, apparemment, je suis fidèle dans le Seigneur, tout ça, mais il y a des choses qui veulent nous interpeller le Seigneur. Et moi, il m'a interpellé sur une chose. Je suis passionné du sport, hein. J'avais une passion un peu trop exacerbée envers le sport. Et dès qu'il y a des matchs de foot, tout ça, je suis rivé sur ma télé. Hein. Et le Seigneur, au début, ça ne m'arrivait pas quand j'étais jeune. Et plus on grandit et plus le Seigneur a accentué une chose en moi. C'est qu'à chaque fois que je regarde un match, à la fin du match, je suis malade. Je me rends tellement malade. J'ai mal à la tête, j'ai mon cœur, il bat, mais à 200 à l'heure. Je me crois vraiment sur le terrain. Mais ça me rend malade au point que je suis obligé de prendre un cachet parce que j'ai mal à ma tête. J'ai mal à ma tête. Et là, le Seigneur, il m'a fait comprendre, attention, ça, c'est une chose qui prend de la place dans ta vie. C'est ça, immondé, c'est un exemple. Après, il y a d'autres façons, chacun, Dieu nous connaît. Donc maintenant, j'en suis arrivé à regarder de moins en moins les matchs de sport à la télé. Je dis merci Seigneur. Ça met du temps à comprendre, hein. On ne saisit pas toujours. Mais si on demeure dans le Seigneur, il va nous montrer. Même s'il doit mettre des bâtons d'allumettes, il va les mettre. Il va dire, regarde. Mais tout ça, c'est par amour. Hein. Faut bien vraiment prendre ça, c'est par amour. Il est tellement doux, le Seigneur. Et donc, nous arrivons au quatrième panier, dans le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le quatrième, c'est celui qui déborde, c'est celui qui porte beaucoup de fruits en abondance. Et voilà, c'est en cela que Dieu est glorifié. Parce que ce que Dieu veut, dans le verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, n'oublions pas, nous sommes sa vigne, Dieu nous aime, et il va passer dans les rangées de nos vies, il va travailler nos vies pour qu'on puisse porter du fruit pour sa gloire. Et nous sommes les premiers bénéficiaires. Je vous le dis, on est les premiers bénéficiaires. On se réjouit quand on voit un fruit qui germe. On se réjouit. Alors le fruit, ben c'est quoi? C'est, ben je dirais, le fruit de l'esprit dans Galates. Dans Galates, chapitre 5, verset 22. C'est ce fruit-là que Dieu veut multiplier. Multiplier l'amour en nous. Multiplier la joie, multiplier la douceur, la maîtrise de soi, la bienveillance, la foi. Pour en arriver à ce stade du sarment, du chrétien qui porte du fruit en abondance. En abondance. Donc quand on regarde le chapitre de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, je me dis, oh Jean-Luc, t'as encore du boulot. Encore du boulot. Donc c'est ce fruit-là. On peut avoir l'amour, mais cet amour va se développer. Tous les fruits de l'esprit doivent se développer sans aucune limite. Sans aucune limite. C'est à foison. Donc, chez vous, vous pouvez lire le passage de l'amour. Ça vous permettra de visionner un peu où vous êtes. Regardez le fruit de l'esprit, de vous examiner. Et il m'a fait penser aussi à la nuée. La nuée, j'ai dit pourquoi la nuée dans l'Ancien Testament avec le peuple juif. Ben, il m'a fait comprendre en ce qui concerne par rapport au mot demeurer, rester dans sa présence. C'est dans Nombre 9, versets 15 à 23, on ne va pas le lire. Et ce que le peuple faisait, au-dessus de la tente de la rencontre, il y avait la nuée. Et la nuée, c'était une colonne de feu. Et en fin de compte, dès que la nuée se levait, le peuple d'Israël se levait. Il se levait et dit, tiens, oh, il se passe quelque chose. À chaque fois que la nuée bougeait, le peuple bougeait. Et une fois que la nuée s'arrêtait dans un endroit, le peuple s'arrêtait et demeurait là où Dieu demeure. suivre sa présence, tout simplement. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que sa présence, elle est en nous. Donc je dirais plutôt Dieu qui nous suit. Parce qu'il veille sur nous, tellement qu'il nous aime. Alors comment porter du fruit ? Il y a trois clés qui paraissent simples, mais là où on doit pratiquer, comme dans Jacques, il dit pratiquer la parole de Dieu et de ne pas faire de faux raisonnements. Il ne faut pas simplement l'écouter. On n'en est plus au stade de l'écouter aujourd'hui. Il ne faut plus être des bébés spirituels. Il faut être des hommes faits. Et ça se voit au fruit, à notre relation avec le Seigneur. Et c'est marrant avec tout ce qui a été dit dans la louange. Adorer Dieu plus que toute autre chose, mettre le Seigneur au centre. C'est là qu'il veut nous amener, en sa présence. Et ce qui m'a attiré aussi mon attention, c'est qu'il m'a dit, regarde un peu Moïse. À chaque fois que Moïse s'approchait de moi, il changeait. Il ne pouvait pas rester le même. Quand on s'approche du Seigneur, on ne peut pas rester le même. C'est impossible. Si on reste le même, c'est parce qu'on ne demeure pas dans sa présence. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors à nous de demander au Seigneur d'examiner les choses. Et donc les trois clés, demeurer dans le Seigneur, consacrons du temps dans la prière, l'étude de sa parole. Revenons à l'essentiel, on le dit souvent, mais il faut honorer Dieu avec notre cœur aujourd'hui. On l'honore avec nos lèvres, mais nos lèvres ne sont pas suffisantes. Dieu veut notre cœur, tout notre cœur. Ne soyons pas des âmes partagées, comme dans le chapitre de Jacques, chapitre 4. Approchez-vous de Dieu. On a dit tout à l'heure, approchez-vous de Dieu. On doit s'approcher. Le deuxième, c'est garder sa parole. Donc, c'est ce que je viens de dire. Garder sa parole ne veut pas dire simplement l'entendre, c'est la mettre en pratique. Le Seigneur veut vraiment qu'on va au taquet dans la pratique. Dans la pratique. Parce qu'il veut voir les fruits. Il veut voir les fruits. Il veut une relation vraie et sincère. L'artifice, il n'en veut pas. C'est pour ça que Jésus était dur avec les religieux du temps d'Israël, avec les docteurs de la loi. Dieu ne veut pas de l'artifice. Il veut du vrai, de l'authentique. De l'authentique. Et le troisième, aimez-vous les uns les autres. Verset 12. C'est ici mon commandement. C'est le commandement de Jésus. Le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est là qu'il m'a raccroché dans la deuxième phrase. Comme je vous ai aimé. Et Jésus nous a donné un exemple. Il est l'exemple suprême comment on doit s'aimer. Alors je dirais, c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous qui va nous aider. On a la Trinité. Le Seigneur peut-être parfois va nous discipliner, il va nous émonder, mais on n'est pas tout seul parce que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc l'essentiel, c'est la présence et l'amour. Et pourquoi l'amour ? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et il m'a dit « Fais attention à la multitude. » Vous savez, la muraille de l'Église, c'est l'amour. Ce qui empêche la multitude de péchés de rentrer dans l'Église. Et le ciment, c'est ce qui va colmater les brèches. Nous pardonner les uns les autres, nous aimer. Si on a offensé, on demande pardon. On ne cherche pas trop. Il faut s'humilier. Il faut se lâcher dans la vie en Jésus-Christ. Il faut se lâcher. Même si ça nous coûte. Même si ça nous coûte. Même si on doit s'humilier. Même si ça nous fait du mal. Même si notre orgueil, elle en prend un coup. L'authenticité. Quand Jésus va revenir, il va regarder l'authenticité. Tout ce qui est artifice va disparaître devant sa gloire. Ne tiendra pas. Ne tiendra pas. Il faut être fondé sur le roc. Le roc. Et le roc, c'est l'authenticité. D'une relation vraiment saine et pure en Jésus-Christ. Mais Dieu est avec nous. Et il est là pour nous aider à y parvenir. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on doit s'accrocher au cep. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci de l'essentiel. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as amenés devant toi, devant ton trône. Aujourd'hui, on ne parle pas de mission, on ne parle pas de miracle, on ne parle pas de choses extraordinaires. On parle de l'essentiel, qui est la chose la plus extraordinaire. Être dans la présence de notre Père, en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, oui, sans toi, on ne peut rien faire. C'est en toi qu'on va changer. C'est en toi qu'on va porter du fruit. Entrons dans le lieu trois fois saint, parce que la porte nous est ouverte. La porte nous est ouverte depuis 2000 ans. Ne tournons pas autour du temple. Ne passons pas devant la porte. N'attendons pas au seuil de la porte. Mais rentrons pour trouver notre Dieu et notre Seigneur. Il nous invite à le rencontrer, parce que c'est là qu'est l'essentiel. Et si nous rentrons, alors l'Église sera bénéficiaire, alors les choses vont changer autour de l'Église, parce que la présence de Dieu va se manifester dans le pays, dans l'Église. Oui, Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci Père, que nous puissions garder ta parole, ce que tu nous as dit, Seigneur, dans une relation authentique. Amen.